Chapitre 53. Ce fut une troupe bigarrée de 45 hommes et femmes frigorifiés qui parcourut la dizaine de kilomètres séparant le rocher des affamés du pavillon Fax. Daïman ouvrait la marche, portant le sac à dos contenant un œuf de Sétébos toujours lumineux et parfois frémissant, et Ada avançait à ses côtés en dépit de ses blessures. Les premiers kilomètres à travers la forêt furent les plus difficiles. Le terrain était chaotique, la visibilité médiocre, il s'était remis à neiger et tous attendaient avec angoisse une attaque de Voynix. Lorsqu'une demi-heure, trois quarts d'heure, puis une heure eurent passé sans encombre, sans que l'on aperçût l'ombre d'un Voynix, tout le monde se détendit un peu. Le Sony les survolait à 30 mètres d'altitude, avec à son bord Gréogy, Tom et les 8 blessés les plus grièvement atteints. De temps à autre, Gréogy partait en avant-garde, tournait au-dessus de la forêt, puis revenait à portée de voix pour transmettre ses informations.
« Voynix, droit devant, à 700 ou 800 mètres! Mais ils battent en retraite! Cet œuf les tient vraiment à distance !»
Luttant contre la migraine qui lui taraudait le crâne et la douleur plus sourde qui montait de son poignet et de ses côtes, chaque souffle lui arrachait un rictus, Ada n'était guère rassurée par cette nouvelle. Elle avait vu les Voynix courir à toute vitesse, sans parler de leur bond surhumain. Il leur suffirait d'une minute pour fondre sur eux. Les humains disposaient de 25 fusils ou pistolets à fléchettes, mais les munitions commençaient à se faire rares. Couverte de bandages comme elle l'était, Ada ne portait pas d'armes sur elle, et elle se sentait d'autant plus vulnérable en tête de cortège, aux côtés de Daïman, d'Edid, de Bowman et de quelques autres. Il tombait parfois sur des congères hautes de 30 cm, et Ada avait tout juste assez d'énergie pour s'arracher à la neige collante. Ils finirent par émerger de la partie la plus dense et la plus accidentée de la forêt, maintenant toujours le cap au sud-est pour retomber sur la route reliant Hardis au pavillon Fax, mais ils ne purent pas pour autant accélérer l'allure, car certains d'entre eux, quoique relativement valides, n'en étaient pas moins souffrants, et on déplorait notamment une victime d'hypothermie. Cyrus avait pris en charge leur petit groupe. Et quand elle ne veillait pas à ce que les plus vulnérables reçoivent l'assistance dont ils avaient besoin, elle demandait au groupe de tête de ralentir l'allure.
« Je ne comprends pas », dit Ada alors qu'il débouchait sur un vaste pré où elle avait l'habitude de se promener en été.
« Quoi donc ?» demanda Daïman. Il tenait le sac à dos devant lui à bout de bras, comme si l'œuf dégageait une odeur nauséabonde. Ce qui était bien le cas, ainsi qu'Ada l'avait remarqué. Une odeur de pourriture teintée de remugle d'égout. Mais comme il luisait toujours et qu'il vibrait de temps en temps, le petit Sétébos qui l'abritait était toujours en vie.
« Pourquoi cette chose oblige-t-elle les Voynix à rester à l'écart ?» dit Ada.
« Sans doute qu'ils en ont peur. » Daïman fit passer le sac à dos d'une main à l'autre. Il ne lâchait pas son arbalète.
« Oui, ça tombe sous le sens, » répliqua Ada.
Elle regretta aussitôt sa sécheresse de ton. Ses blessures et sa migraine la rendaient irritable.
« Je veux dire, » reprit-elle, « quel est le rapport entre les Voynix et cette chose à Paris-Cratère ?»«
Aucune idée, » fit Daïman.
« Les Voynix sont ici depuis toujours ?» Sétébos a débarqué il y a à peine une semaine.
Je sais. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont liés. Peut-être qu'ils l'ont toujours été. Ada acquiesça, réprima une grimace et mit un pied devant l'autre. Les conversations étaient rares parmi ces 45 hommes et femmes qui s'engageaient à présent dans un bosquet plutôt dense, puis traversaient un ruisseau familier aujourd'hui pris dans les glaces et dévalaient une colline aux herbes figées par le gel. Le Sony descendit vers eux.
« Plus que 400 mètres jusqu'à la route !» annonça Gréogy. « Les Voynix sont partis encore plus au sud. 3 kilomètres au moins !»
Lorsqu'ils arrivèrent en vue de la route, les survivants s'animèrent un peu et on les vit échanger murmures excités et tapes dans le dos. Ada se tourna dans la direction du château d'Hardis. Elle distinguait le pont couvert derrière le coude que faisait la route menant au manoir, mais elle ne pouvait voir l'édifice proprement dit, même pas sous la forme d'un nuage de fumée noire. Durant une minute, elle crut qu'elle allait être victime d'un malaise. Des taches noires dansaient dans son champ visuel. Elle fit halte, se pencha en avant et posa les mains sur ses genoux.
« Est-ce que ça va, Ada ?»
C'était Laman. L'homme barbu était vêtu de haillons et sa main droite, mutilée de 4 doigts lors des affrontements, était enveloppée de chiffons.
« Oui, » fit Ada.
Elle se redressa, lui fit un sourire et se hâta de rattraper le groupe de tête. Ils étaient à un peu plus d'un kilomètre du pavillon Fax et, n'eût été la neige, la familiarité des lieux les aurait rassurés. Pas le moindre signe des Voynix. Le Sony décrivit quelques cercles au-dessus d'eux, puis s'éloigna et revint peu après. Gréogy leur montra son pouce levé, puis repartit en avant-garde.
« Où allons-nous nous faxer, Daiman ?»
interrogea Ada. Sa voix parut atone à ses propres oreilles, mais elle se sentait trop épuisée, trop mal en point pour se forcer à plus de dynamisme. « Je ne sais pas, » répondit l'homme mince et musclé qui, jadis, avait été un esthète polisson et bedonnant. « Je sais cependant quelles sont les destinations à éviter. » Cétébos a sans doute recouvert de glace bleue les nœuds les plus peuplés comme Chom ou Lambat, Paricrater et Belinbad. Mais je connais un nœud inhabité où je séjourne de temps à autre. Une île tropicale. Il n'y a là qu'un petit village abandonné avec l'océan tout autour, j'ignore lequel, et un splendide lagon. Je n'y ai guère vu d'animaux excepté des lézards et quelques cochons sauvages, mais ils ne me semblent pas farouches. Nous pourrions y vivre de chasse et de pêche, y fabriquer de nouvelles armes, y soigner nos blessés. Bref, y rester planqué le temps d'élaborer un plan.
Comment Arman, Anna et Odysseus personne feront-ils pour nous retrouver ?
Daemon resta silencieux une minute, et Ada imaginait sans peine ce qu'il pensait. Nous ne savons même pas si Arman est toujours vivant. Pétir nous a dit qu'il avait disparu avec Ariel. Mais lorsqu'il reprit la parole, ce fut pour répondre. Pas de problème. L'un d'entre nous se faxera ici à intervalles réguliers. Et nous pouvons laisser au château un message où figurera le code fax de notre cachette tropicale. Arman sait lire. Je ne pense pas que les Voynix en soient capables. Ada eut un pauvre sourire.
Les Voynix se sont montrés capables de beaucoup de choses, à notre grande dame.
Ouais, fit Daemon. Ils restèrent silencieux jusqu'à leur arrivée au pavillon. Le pavillon Fax était tel que Daemon l'avait découvert 48 heures plus tôt. Plusieurs brèches étaient ouvertes dans la palissade. Il y avait un peu partout des taches de sang séché, mais les cadavres de ceux qui s'étaient battus jusqu'à la mort pour défendre les lieux avaient été emportés par les Voynix ou les animaux sauvages. Le pavillon proprement dit était encore intact, et la colonne Fax se dressait toujours au centre de la structure circulaire. Les humains firent halte au bord de la plateforme, jetant de fréquents regards vers la forêt derrière eux. Le Sony atterrit et on aida les invalides à en descendre.
« Plus rien à 8 kilomètres à la ronde !» déclara Gréogy. « C'est incroyable! Les quelques Voynix que j'ai aperçus filaient vers le sud comme si vous les pourchassiez !»
Daemon jeta un coup d'œil à l'œuf dans son sac à dos, qui brillait toujours d'un éclat laiteux, et soupira.
« On ne les pourchasse pas !» On veut simplement foutre le camp d'ici.
Il exposa son plan à Gréogy et aux autres. Quelques protestations fusèrent. Certains voulaient rejoindre des parents ou des amis établis dans un autre nœud pour savoir s'ils avaient survécu. Cole était sûr que ce Cétébos dont parlait Daemon n'avait pas pu envahir le domaine de Loman. C'était là que vivait sa mère.
Bon, écoutez-moi, dit Daemon en élevant la voix. Nous ne savons pas où se trouve Cétébos en ce moment. Il lui a fallu moins de 24 heures pour transformer la métropole de Paricrater en citadelle de glace bleue. Cela fait moins de 48 heures que je suis revenu ici et j'ai été la dernière personne à arriver par fax. Voici ce que je vous suggère.
Ada remarqua que tout le monde s'était tu. Les gens écoutaient Daemon. Ils l'acceptaient comme chef, comme avant lui Ada et Arman. Elle refoula ses sanglots à grand-peine.
« Commençons par décider si nous devons rester ensemble !» reprit Daemon, dont la voix forte parvenait à toutes les oreilles. « Nous allons voter et... »«
Qu'est-ce que ça veut dire, voter ?»
s'enquit Bowman. Daemon leur expliqua le concept.
« Donc, si plus de la moitié d'entre nous vote pour que nous restions ensemble, alors tout le monde doit leur obéir ?»
dit Oko.
« Uniquement pour quelque temps, » précisa Daemon. « Disons, une semaine. Nous courrons moins de risques ensemble que séparément. » Et n'oublions pas les blessés et les malades qui sont incapables de se défendre. Si nous nous faxons tous vers des destinations différentes, comment ferons-nous pour nous retrouver ensuite? Et si quelques-uns insistent pour partir, est-ce que nous les laisserons emporter nos fusils et nos arbalètes? Ou bien ces armes sont-elles réservées à ceux qui veulent rester ensemble? Que ferons-nous pendant cette semaine? si nous acceptons de te suivre dans ce paradis tropical ? Demanda Tom. Exactement ce que j'ai dit. Nous pourrons récupérer, dénicher ou fabriquer de nouvelles armes, établir une sorte de périmètre de défense. Il y a un îlot par-delà le récif de corail. Nous pourrions construire quelques canots et nous installer là-bas. Parce que les Voynix ne savent pas nager ? Lança Stoman.
On entendit des rires nerveux et Ada se tourna vers Daeman. Cette saillie relevait de l'humour noir, un concept qu'elle avait découvert en siglant les vieux livres de la bibliothèque d'Ardis. Mais elle avait réussi à dissiper la tension. Daeman rit de bon cœur.
J'ignore si les Voynix savent nager, mais s'ils en sont incapables, cet îlot serait pour nous un refuge idéal. Sauf si on fait trop d'enfants et qu'on finit par se marcher sur les pieds,
lança Tom. Cette fois-ci, ce fut l'hilarité générale. Nous pourrons envoyer des équipes de reconnaissance par fax, reprit Daeman.
Et dès le jour de notre arrivée. De cette façon, nous nous ferons une idée de la situation globale, et nous saurons quels sont les 9 fax à proscrire. Au bout d'une semaine, ceux qui le souhaiteront pourront s'en aller. Mais je pense que nous avons tout intérêt à rester ensemble tant que nos malades ne seront pas rétablis, et tant que nous n'aurons pas tous eu une chance de nous reposer et de nous restaurer.
Votons, dit Colin.
Et c'est ce qu'ils firent à grand renfort d'éclats de rire lorsqu'ils virent qu'il leur fallait lever la main pour parvenir à une décision. 43 d'entre eux étaient pour rester ensemble, 7 étaient contre, et les 5 abstentions émanaient de blessés qui n'avaient pas encore repris connaissance.
« Bon, » fit Daeman. Il s'approcha de la console fax.
« Un instant, » dit Gréogie. « Que faisons-nous du Sony ? Il ne se faxera pas, et si nous l'abandonnons ici, les Voynix ne manqueront pas de s'en emparer. Il nous a sauvé la mise plus d'une fois.
Merde !»
s'exclama Daeman.
« Je n'avais pas pensé à ça. »
Il passa une main sur son visage couvert de crasse et de sang, et Ada vit que son attitude énergique dissimulait en fait une grande fatigue.
« J'ai une idée !» dit-elle.
Tous se tournèrent vers elle et attendirent patiemment.
Comme vous le savez pour la plupart, Savi nous a montré comment utiliser de nouvelles fonctions, le Proxnet, le Farnet et l'Olnet. Certains d'entre vous les ont même testés. Une fois que nous aurons gagné le paradis tropical de Daeman, nous ouvrirons la fonction Farnet, nous localiserons l'endroit où nous sommes, et l'un d'entre nous reviendra ici pour gagner l'île aux commandes du Sony. Arman, Anna, Petir et personne ont mis moins d'une heure pour se rendre au Golden Gate à Machu Picchu. Il nous faudra donc peu de temps pour voler jusqu'au paradis.
Tous acquiescèrent, certains en gloussant.
« J'ai une meilleure idée !» intervint Gréogi. « Faxez-vous tous au paradis. Je reste ici pour garder le Sony. L'un de vous n'aura qu'à revenir avec le plan de vol et je vous rejoindrai dès aujourd'hui.
Je reste avec toi !»
dit Laman, qui tenait un fusil à fléchette dans sa main valide.
« Tu auras besoin d'un tireur si les Voynix reviennent dans les parages. Et puis je te relairai si tu veux dormir pendant le voyage. »
Daeman se fendit d'un sourire là.
« C'est décidé ? » demanda-t-il à la cantonade.
Les survivants se tendirent vers la console, impatients de partir.
« Minute !» fit Daeman. « Nous ignorons ce qui nous attend là-bas. Donc 6 d'entre nous parmi ceux qui sont armés. Cole, Kaman, Ella, Bowman, Kasman, Edid, m'accompagneront et nous irons en avant-garde. Si tout se passe bien, l'un de vous reviendra ici dans les 2 minutes. Ensuite, je propose que nous commencions par faire passer les malades et les blessés. Tom, Cyrus, pouvez-vous mettre sur pied une équipe de brancardiers ? Gréogi, choisis 6 fusiliers qui monteront la garde sous ton commandement pendant que le reste du groupe se faxera. D'accord ?
Tous acquiescèrent avec impatience. Les 6 personnes sélectionnées par Daeman se placèrent sur le motif en étoile de la plateforme pendant qu'ils se plantaient devant la console. «
Allons-y, »
dit-il et il composa le code de son nœud inhabité. Il ne se passa rien. Pas le moindre souffle d'air, pas le moindre petit éclair. Les passagers n'avaient pas bougé.
« Un à la fois !» dit Daeman, qui savait pourtant qu'un nœud fax pouvait facilement déplacer 6 personnes. « Cole, mets-toi sur l'étoile. »
Cole s'exécuta, un peu inquiet cependant. Daeman composa le code une nouvelle fois. Rien. On entendait souffler le vent dans le pavillon.
« Peut-être que ton nœud fax ne fonctionne plus ?»
lança une dénommée CAS.
« Je vais essayer le domaine de l'Oman, » dit Daeman en tapant le code approprié.
Toujours rien.
« Bon Dieu de merde !»
s'écria Kaman qui le poussa sans ménagement.
« Tu ne sais pas t'y prendre ! Laisse-moi faire !»
Une demi-douzaine de personnes lui succédèrent en vain. On composa 3 douzaines de codes connus, rien ne marchait. Ni Paris-Cratère, ni Chom, ni Belinbad, ni les multiples étages des cercles du paradis à Oulan-Bat. Rien. Au bout du compte, ils restèrent là, silencieux, livides, paralysés par la terreur et le désespoir. Aucun des bouleversements, des cauchemars des 9 derniers mois, que ce soit la chute des météores, la disparition de l'électricité et des serviteurs, les premières attaques des Voynichs ou l'annonce de la glaciation de Paris-Cratère, le massacre du château d'Ardis ou le siège du rocher des affamés, n'avaient accablé à ce point ces hommes et ces femmes. Les neufax avaient cessé de fonctionner. Le monde, tel qu'ils le connaissaient depuis leur naissance, avait cessé d'exister. Ils ne pouvaient fuir nulle part. Il ne leur restait plus qu'à attendre la mort. Que celle-ci soit du fait des Voynichs, du froid, de la maladie ou de la faim, ils allaient tous y passer, l'un après l'autre, jusqu'au dernier. Ada monta sur la petite estrade entourant la colonne fax afin que tous puissent la voir et l'entendre.
« Nous retournons au château d'Ardis !»
annonça-t-elle d'une voix ferme qui n'admettait aucune contradiction.
« Ce n'est qu'à 1500 mètres d'ici. Même dans notre état, nous y serons dans moins d'une heure. Gréogie et Tom transporteront les invalides. « Mais qu'est-ce qu'on va faire à Ardis ?»
demanda une femme de petite taille qu'Ada ne put identifier.
« Il n'y a plus rien là-bas, excepté des cadavres, des cendres et des Voynichs !» Tout n'a pas brûlé,
répondit-elle en haussant le ton. En fait, elle n'en avait aucune idée. Lorsqu'on l'avait arrachée aux flammes, elle était plongée dans l'inconscience. Mais Daeman et Gréogy lui avaient décrit les ruines du domaine.
Tout n'a pas brûlé, répéta-t-elle. Il reste des poutres, les ruines du baraquement. Dans le pire des cas, nous démonterons la palissade pour nous construire des cabanes. Sans parler des objets que nous pourrons récupérer, ceux qui n'auront pas été consumés par les flammes. Il y aura peut-être des armes, d'autres objets que nous aurons abandonnés.
« Sans parler des Voynichs !»
dit un dénommé Helos au visage couturé de cicatrices.
« Peut-être, mais les Voynichs sont partout. Et ils redoutent l'œuf de Cétébos que porte Daeman. Tant que nous posséderons cet œuf, les Voynichs ne s'approcheront pas de nous. Et où préfères-tu les attendre, Helos ? La nuit, dans les ténèbres de la forêt, ou autour d'un grand feu de camp, voire à l'abri d'une hutte ?» pendant que tes amis montent la garde. »
Le silence se fit, mais un silence empreint de colère. Quelques-uns tentèrent à nouveau de se faxer, tapant sur la colonne en signe de frustration.
« Pourquoi ne restons-nous pas ici, dans le pavillon ?»
dit Ella.
« Il a un toit, au moins. Nous pouvons y élever des cloisons, puis y faire du feu à l'intérieur. Cette palissade est plus petite que celle d'Ardis. Il serait plus facile de la reconstruire. Et si le fax se remet à fonctionner, nous serons à pied d'œuvre. »
Ada opina.
Proposition des plus sensées, mon ami. Mais que fais-tu de l'approvisionnement en eau? Le ruisseau se trouve à plus de 400 mètres d'ici. Il faudrait organiser des équipes pour aller chercher de l'eau en permanence, et elle serait vulnérable à une attaque des Voynichs. Sans compter que nous n'avons rien ici pour stocker l'eau. Nous ne pouvons même pas tenir tous dans ce pavillon. Et il fait froid dans cette vallée. Le château est mieux exposé au soleil. Nous y aurons davantage de matériaux de construction, et il est équipé d'un puits. Nous pourrons bâtir notre refuge autour du puits, ce qui nous dispensera d'aller chercher de l'eau ailleurs. »
Les survivants hésitèrent, mais aucun d'eux n'avait mieux à proposer. Toutefois, ils renâclaient visiblement à l'idée de s'éloigner du pavillon, la seule chance de salut à leurs yeux, pour fouler à nouveau la route gelée.
« Moi, j'y vais tout de suite !» reprit Ada. « La nuit ne va pas tarder à tomber. Je tiens à être devant un bon feu quand les anneaux se lèveront. »
Elle sortit du pavillon et se mit en marche vers l'ouest. Daeman la suivit, puis Boman et Edid, puis Tom, Siris, Kaman et la plupart des autres. Gréogy supervisa le chargement des invalides à bord du Sony. Daeman courut pour rattraper Ada et lui murmura à l'oreille
« J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. »«
Quelle est la bonne ? »
demanda-t-elle avec lassitude. Son crâne les lançait si fort qu'elle gardait les yeux fermés, ne les entr'ouvrant que de temps à autre pour ne pas aller dans le fossé.
« Tout le monde te suit, » dit Daeman.
« Et la mauvaise ?»
demanda Ada.
« Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. »
se répétait-elle farouchement.
« Ce putain d'œuf de Cétébos est sur le point d'éclore, »
dit Daeman.